VOA Afrique, le monde aujourd'hui. À Washington.
Bonsoir à toutes et à tous. Anastasie Tudiache avec vous. En direct de Washington, il est 18h30 en temps universel. Au sommaire, en Espagne, une camionnette a foncé sur la foule dans une zone touristique de Barcelone, faisant au moins 13 morts et 50 blessés. Une semaine de deuil national décrétée en Sierra Leone après des inondations qui ont fait plus d'une centaine de morts. Plusieurs centaines de morts. En République démocratique du Congo, catastrophe naturelle dans le nord-est du pays, un village englouti, 40 morts. Ici aux États-Unis, les débats sont encore très vifs autour des événements du week-end dernier à Charlottesville. Le monde aujourd'hui, c'est aussi les sports et l'actualité économique, mais d'abord le journal. Actualité oblige, nous commencerons par l'Espagne où une camionnette a foncé sur une foule, dans une foule sur une avenue fréquentée à Barcelone, tuant au moins 13 personnes et faisant 50 blessés. Le point avec Chérubin Gaby Dorsil.
La police a confirmé qu'il s'agit bel et bien d'une attaque terroriste et a prévenu que le bilan pourrait s'alourdir. Selon plusieurs témoins, le conducteur du véhicule a fui à pied pour se retrancher dans un magasin. Le véhicule roulant à vive allure a percuté une foule surprise, créant la panique dans la zone. Les stations de métro et de chemin de fer ont été fermées. Le chef du gouvernement espagnol, Mariano Rajoy, a fait savoir qu'il était en contact avec tous les services. Il a dit que la priorité reste la prise en charge des blessés et faciliter le travail des forces de sécurité. C'est la première fois que la ville de Barcelone a été ciblée par des terroristes, mais l'utilisation de véhicules comme arme est devenue un mode opératoire pour les djihadistes en Europe, notamment à Nice, Berlin et Londres. Pour rappel, ici aux États-Unis, un membre de l'extrême droite a aussi utilisé une voiture pour tuer une jeune femme samedi à Charlottesville, en Virginie.
Et sur le continent, les familles des victimes de l'attaque du restaurant Aziz Istanbul de Ouagadougou ont procédé ce jeudi à la levée des corps à la morgue de l'hôpital de Bogodogo, en périphérie de la capitale burkinabé, 4 jours après cet attentat qui a choqué le pays. La Sierra Leone enterre ses morts. Le président Ernest Bai Koroma a décrété une semaine de deuil national après des inondations qui ont fait plusieurs centaines de morts. Le point avec Solange Niamoulissa.
Les premières inhumations se sont déroulées lors d'une cérémonie en présence du président Koroma. Ravagés par le chagrin et la colère après la disparition de leurs proches, emportés par des coulées de boue, les Sierra Leone se posent des questions. De nombreux corps n'ont pas encore été identifiés. Les autorités avaient donné jusqu'à mercredi soir aux familles pour venir identifier leurs proches à la morgue centrale de la ville. Les chiffres donnés jusqu'ici évoquent plus de 300 morts et 600 disparus, mais le bilan définitif pourrait s'alourdir. Les habitants et experts critiquent l'inefficacité des autorités à endiguer la déforestation et l'urbanisme sauvage, considérés comme des facteurs qui ont amplifié les effets de la catastrophe. Le pays se remet à peine d'une épidémie de fièvre Ebola.
Autre catastrophe naturelle en République démocratique du Congo, cette fois-ci, où un glissement de terrain a fait 40 morts hier dans le nord-est du pays. Un village de pêcheurs sur la rive occidentale du lac Albert, en Ituri, a été englouti. Jacques Aristide.
Des pans d'une montagne se sont affaissés sur ce camp de pêcheurs dans la localité de Tora après de fortes pluies, d'après Pacific Keta, vice-gouverneur de la province de l'Ituri. 4 rescapés ont été admis à l'hôpital de Chomia, dont des pans Tora. La pêche sur le lac Albert est l'une des principales activités économiques en Ituri, région frontalière de l'Ouganda. Selon M. Keta, le même jour, l'effondrement de la mine d'or de Makala a causé la mort de 2 personnes qui y opéraient clandestinement dans une localité voisine de Walendupiti. La RDC a connu dans le passé d'autres glissements de terrain meurtriers. En mai 2010, une coulée de boue qui a traversé le village de Kibiriga dans l'est du pays avait fait 19 morts et 27 disparus. En février 2002, une 50aine de personnes avaient trouvé la mort dans une coulée de boue et de pierres provoquée par de fortes pluies à Uvira, dans le sud Kivu.
Jacques Aristide, et toujours à propos de la République démocratique du Congo, l'ONU dispose de 2 rapports sur le meurtre en mars de 2 de ses experts au Kasaï, dans le centre du pays. Un rapport datant de juin a été rédigé par des experts de l'ONU, l'autre, datant d'août, a été réalisé par des enquêteurs onusiens. Le premier évoque un guet-apens prémédité, sans exclure l'implication de membres de la sécurité d'État. Le second parle d'un crime commis par des miliciens et réclame des investigations complémentaires pour identifier formellement les auteurs du meurtre. Et au Congo-Brazzaville voisin, le gouvernement a présenté sa démission, une procédure normale après la victoire du parti présidentiel aux législatives, mais à une période de négociations délicates avec le Fonds monétaire international, de crise et de colère contre le président Sassou Nguesso. Le nombre de Sud-Soudanais ayant trouvé refuge en Ouganda voisin pour fuir la guerre civile dans leur pays a dépassé le million. C'est ce qu'a annoncé aujourd'hui le Haut Commissariat de l'ONU pour les réfugiés, le HCR, pour qui cette crise ne semble pas près de prendre fin.
VOA Afrique à Washington, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Et ici aux États-Unis, les réactions se poursuivent après les incidents du week-end à Charlottesville, en Virginie, où une manifestation d'extrême droite a tourné au drame avec la mort d'une contre-manifestante de 32 ans. Des chefs de l'armée aux politiciens, les condamnations se multiplient. Abdourahmane Dia.
Le plus haut gradé de l'armée américaine, en visite à Pékin, a fermement condamné le racisme et l'intolérance, s'associant à la dénonciation d'autres responsables militaires. Le chef de la marine, l'amiral John Richardson, a déclaré dès samedi, jour des événements de Charlottesville, que l'US Navy s'opposerait toujours à la haine et à l'intolérance. Plusieurs leaders politiques, démocrates et républicains, ont aussi dénoncé le racisme et la montée de l'extrême droite. Ces dénonciations sont en porte-à-faux avec les propos du président américain Donald Trump, qui a renvoyé dos à dos les groupuscules suprémacistes blancs et les manifestants antiracistes. Dans un nouveau tweet ce matin, le locataire de la Maison-Blanche a estimé que le démantèlement des statues des chefs confédérés, qui étaient opposés à l'abolition de l'esclavage, déchirer une partie de la culture américaine.
Et un sondage publié ce jour conforte la position de Donald Trump. Près de 2 Américains sur 3 se sont dit favorables à ce que les statues célébrant des personnages des États sudistes confédérés, considérés comme des symboles esclavagistes, eh bien, 2 Américains sur 3 estiment que ces statues doivent rester en place. Et pour continuer sur le sujet, les géants d'Internet prennent part au débat. L'ensemble des entreprises de la Silicon Valley s'est exprimé cette semaine à l'unisson. Tout ce qui promeut la violence et le sectarisme enfreint les conditions d'utilisation de leurs services, ce qui se traduit par la fermeture unilatérale de comptes ou le retrait de publications. Toujours en Amérique du Nord, au Canada cette fois-ci, pression inédite sur les services policiers et frontaliers. 8 demandeurs d'asile sur 10 à la frontière américano-canadienne sont d'origine haïtienne. Ces derniers, les Haïtiens, fuient les États-Unis avant la perte prévue de leur statut de protection temporaire, le TPS, qui devrait se terminer en fin d'année. L'Arabie Saoudite a décidé d'ouvrir sa frontière avec le Qatar pour permettre aux pèlerins de se rendre sans entrave à la Mecque, une mesure saluée aujourd'hui par Doha, mais qui ne règle toutefois pas la crise dans le Golfe. Pour Ali Shihabi de l'Arabia Foundation à Washington, il s'agit d'un simple geste de bonne volonté à l'égard du peuple qatari et non d'une percée pour sortir de la tourmente politique, diplomatique. Sur les réseaux sociaux, les réactions étaient mitigées. Quelques 2 millions de pèlerins sont attendus à la Mecque pour effectuer le Hajj, l'un des 5 piliers de l'islam. Le pèlerinage de la Mecque est prévu fin août. Un tribunal israélien a prolongé jusqu'à lundi la garde à vue du prédicateur islamiste Raed Salah, soupçonné d'attiser les passions au sein de la population arabe d'Israël autour de l'esplanade des mosquées à Jérusalem. Les proches de M. Salah assurent de leur côté qu'il reste toujours dans les limites des lois sur la liberté d'expression et qu'il se prononce contre le meurtre d'innocents. Ah, voilà pour le journal. Vous écoutez Le Monde aujourd'hui sur VOA Afrique et voafrique.com. L'actualité économique en Afrique, c'est la Minute Éco, tout de suite présentée ce soir par Eric Maniarakiza.
La Banque africaine de développement s'est beaucoup investie dans le secteur des transports sur le continent. En 50 ans d'existence, la BAD a libéré 30 milliards de dollars pour plus de 450 projets. C'est notamment le bitumage de plus de 40 000 km de route, la modernisation et l'agrandissement de 16 ports et l'appui financier à 30 aéroports. Le Maroc, la Tunisie, le Kenya, la Tanzanie et l'Éthiopie en sont les grands bénéficiaires. La CEDEAO n'aura pas de monnaie unique en 2020 comme prévu. Cette communauté devra encore attendre entre 7 et 10 ans. Marcel de Souza, président de la commission de la CEDEAO, a annoncé un sommet en octobre prochain pour définir les dispositions à prendre. Au Sénégal, les petites et moyennes entreprises enregistrent un faible chiffre d'affaires annuel, inférieur à 2 milliards de francs CFA. D'après Idrissa Diabira, directeur de l'Agence pour le développement et l'encadrement des PME, la plupart de ces entreprises sont dans l'informel et n'ont pas accès au marché public et au crédit bancaire. Enfin, l'Égypte va construire un système léger sur rail dans la capitale. Il s'agit d'un réseau long de 66 km et doté de 11 stations. Les travaux vont débuter dans 3 mois ou plus tard. Ce réseau, qui permettra le transport quotidien de 340 000 personnes, coûtera 1,24 milliard de dollars. Deux compagnies chinoises exécuteront les travaux.
Bonsoir à présent avec vous, Nicolas Pineau. Bonsoir.
Bonsoir Anastasie, bonsoir à tous.
Alors la liste du Togo est dévoilée pour les prochains matchs amicaux, ça y est.
Le sélectionneur du Togo, Claude Leroy, a convoqué 23 joueurs en vue des matchs amicaux contre le Niger le 31 août prochain et le Malawi le 4 septembre. Leroy a convoqué Steve Lawson pour la première fois et deux joueurs locaux, le gardien Abochi Dové et le défenseur Bourama Issifou. Ils vont eux aussi honorer leur première sélection. Absent en juin, Wome Dové et Mathieu Dosévi font leur retour.
Et puis Zinedine Zidane en piste pour le titre de meilleur entraîneur FIFA.
L'entraîneur du Real Madrid figure parmi les 12 techniciens en lice pour le titre. Avec le Real, Zidane a décroché une deuxième Ligue des Champions consécutive et le titre de champion d'Espagne la saison dernière. Les autres candidats sont l'entraîneur de la Juventus, Massimiliano Allegri, ou encore Carlo Ancelotti pour le Bayern et Antonio Conte pour Chelsea.
Et hier, nouveau titre pour Zidane.
Déjà vainqueur 3 en Catalogne, le Real Madrid a aisément remporté hier la Supercoupe d'Espagne après un nouveau succès contre le Barça, 2-0 à Santiago Bernabéu. Les buteurs, Asensio et Benzema, encore une décima pour le Real Madrid après la 10e Ligue des Champions remportée en 2014. Les Merengues se sont adjugés la 10e Supercoupe d'Espagne de leur histoire.
Alors Nicolas, toujours en Espagne, Luis Suarez absent pendant un mois.
L'attaquant uruguayen du FC Barcelone, blessé en Supercoupe hier, va manquer au moins 4 semaines de compétition. C'est un nouveau coup dur pour les Blaugrana. Un examen a révélé que le joueur souffrait des ligaments du genou droit.
Parlons transfert, Kevin Prince-Boateng peut-être de retour en Allemagne.
Oui, l'Eintracht Francfort a confirmé son intérêt pour accueillir l'international ghanéen Kevin Prince-Boateng, 30 ans. Il a quitté, vous le savez, mercredi son club espagnol de Las Palmas pour des raisons personnelles. Boateng, polyvalent sur les différents postes offensifs et notamment passé par les clubs allemands du Hertha Berlin ou encore Dortmund ou Schalke 04.
Enfin, suspension confirmée pour Frankie Fredericks.
La suspension à titre provisoire de l'ancien sprinter namibien de son poste de membre du conseil de la Fédération internationale d'athlétisme a été confirmée par l'IAAF qui a rejeté l'appel du Namibien. Le journal Le Monde avait avancé des soupçons de corruption et un paiement de près de 300 000 dollars versés sur son compte le jour même de l'attribution à la ville de Rio des Jeux Olympiques 2016 par le Comité international olympique. C'était le 2 octobre 2009 à Copenhague.
Merci Nicolas Pineau.
Chaque vendredi sur VOA Afrique, retrouvez John Lyndon dans l'Amérique et vous.
L'Amérique et vous, c'est un condensé de la vie aux États-Unis avec l'éclairage de nos experts.
En réalité, l'impression que les Africains ont de la CPI, c'est que le vrai nom de la CPI, c'est Justice pour l'Afrique.
Fidel Castro était vraiment le cauchemar des États-Unis d'Amérique.
L'Amérique et vous, c'est aussi la politique intérieure et les problèmes de société vus sous l'angle américain et africain.
Que c'est une bonne politique qui se vit du côté des États-Unis.
Je crois qu'il faut saluer d'abord cette initiative américaine.
L'Amérique et vous, votre fenêtre sur les États-Unis tous les vendredis 19h temps universel sur VOA Afrique et voafrique.com.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
Anastasie Tudiech avec vous pour la deuxième partie du Monde aujourd'hui. Place au dossier du jour, nous commençons par les États-Unis. Le président américain Donald Trump a indiqué ce matin qu'il n'était pas un raciste, mais il a plaidé pour le maintien des statues et monuments des leaders confédérés qui étaient opposés à l'abolition de l'esclavage. Le débat sur le racisme fait rage ici aux États-Unis. Pour analyse, Abdourahmane Dia a joint ici à Washington Marilyn Sefocle, enseignante à l'université Howard.
Les questions raciales sont à l'origine même du fondement de la naissance de la nation américaine. Donc ce ne sont pas des questions qui peuvent être évacuées de façon très rapide. Ce sont des questions qui demeurent avec les citoyens américains tant que ces questions ne seront pas confrontées de façon réelle.
Alors, beaucoup de Blancs qui ne sont pas forcément de l'extrême droite semblent dire que la gauche exagère quand il s'agit du racisme. Pensez-vous qu'ils peuvent avoir raison ou que c'est plutôt une gêne de parler publiquement de cette question du racisme ?
Je pense qu'il s'agit davantage là d'une gêne parce qu'il y a beaucoup qui sont d'accord avec le fait que le racisme perdure, mais ils ont peur que les futures générations de Blancs grandissent avec un sentiment de culpabilité. Or, il ne s'agit pas là d'infliger aux générations à venir un sentiment de culpabilité, mais par contre de construire un avenir pour vivre ensemble beaucoup plus sain.
Est-ce que c'est une Amérique plus diversifiée qui fait la crainte de certains au niveau de cette population blanche?
En insistant sur le fait que l'Amérique ne sera plus blanche, on veut mettre les Blancs américains en face d'une certaine réalité. Toutefois, pour les mettre devant cette réalité, il faut aussi parler de l'histoire. Et parler de l'histoire, c'est une histoire vraiment très dure, qui a été extrêmement dure vis-à-vis des Native Americans, des Amérindiens, et vis-à-vis des Noirs américains. Et ça, il faut en parler. Il faut que chaque Blanc américain, Noir américain, américain de toute origine, puisse connaître cette histoire de façon très intime et connaître les dates, et que ce ne soit pas une histoire qui soit une histoire triomphaliste. Parce que jusqu'à maintenant, ce qui prévaut dans le discours américain, c'est une histoire triomphaliste. Qui montre l'immigré venant d'Europe avec des idées extraordinaires et qui vraiment façonne la nation. Or, rien n'est moins vrai. Il y a aussi l'apport de toutes les différentes composantes de la nation américaine.
Marilyn Sefocle, l'enseignante à l'université Howard. En Sierra Leone, après 3 jours de pluie torrentielle, des torrents de boue ont envahi les rues lundi, faisant plus de 300 morts. Des corps sont encore ensevelis sous la boue et les secouristes essaient de venir en aide aux milliers de survivants sans abri. Idriss Fall fait le point sur le dernier bilan de cette catastrophe naturelle avec Aurélie Lachan, porte-parole du CICR à Genève. On l'écoute.
Selon les dernières informations reçues, le bilan fait état de à peu près 300 corps qui ont été retrouvés. Les autorités ont déjà commencé à identifier des corps, à enterrer des corps qui avaient été identifiés, à peu près 140 corps. Appelle la population à identifier d'autres corps qui se trouvent à la morgue, qui est surchargée, afin d'enterrer l'autre corps le plus vite possible. On parle encore d'à peu près 650 personnes disparues. Alors en ce qui concerne les survivants, il y aurait 5000 personnes affectées. On parle de beaucoup de personnes qui sont déplacées, qui sont accueillies dans des maisons d'accueil, enfin chez des familles d'accueil. Des centaines de maisons ont été endommagées ou détruites. Ouais. Le bilan pourrait s'alourdir.
Et comment se fait-il justement que ce bilan soit si lourd, plus de 300 personnes tuées?
Enfin, ces personnes ont fait face à une catastrophe naturelle. Je ne pourrais pas vous expliquer exactement, analyser exactement ce qui s'est passé, mais tout ce que je peux vous dire, c'est que la Croix-Rouge de Sierra Leone est actuellement sur le terrain pour essayer d'identifier, de retrouver des survivants, d'identifier les corps, en fait, et s'occuper des dépouilles mortelles le plus vite possible. Nous fournissons également une assistance médicale aux survivants. Actuellement, il y aurait une centaine de blessés à l'hôpital. Apparemment, les hôpitaux et la morgue sont surchargés. Donc, il y a de nombreux besoins.
Et que fait le CICR?
Alors, le CICR a envoyé une équipe hier pour appuyer nos collègues du mouvement de la Croix-Rouge qui sont sur place depuis le début. Et nous allons travailler pour l'identification des corps, pour la réunification des survivants avec leurs familles. Beaucoup de personnes ont été séparées pendant cette catastrophe. Il y a beaucoup de disparus. Donc voilà, nous allons aider dans ce travail et nous allons aussi évaluer s'il y a d'autres besoins. Nous sommes prêts à appuyer nos collègues du mouvement de la Croix-Rouge.
Et après des inondations, il y a aussi risque d'apparition de maladies.
Oui, en effet. Alors pour l'instant, la situation, le travail se concentre sur l'identification des corps et essayer de retrouver des survivants, mais il y a beaucoup de besoins, notamment dans tout ce qui est accès à l'eau potable, soins de santé. Les infrastructures ont été endommagées et détruites, donc il y aura beaucoup de travail.
C'était Aurélie Lachant, porte-parole du CICR à Genève.
En plus de nos programmes sur FM et ondes courtes, VOA Afrique est en votre compagnie 24 heures sur 24 sur Internet. VOAAfrique.com, tous les derniers développements sur l'actualité africaine et mondiale, reportages photos et vidéos, et vos commentaires sur VOAAfrique.com, à tout de suite.
La hiérarchie de l'Église catholique de N'Djamena dénonce l'occupation anarchique d'un terrain qui lui avait été octroyé pour la construction d'une basilique. Ce terrain est aujourd'hui occupé par des vendeurs de sable, de gravier, entre autres. André Côte-Magingard.
C'est un espace d'une superficie de 960 mètres carrés situé dans la commune du 7e arrondissement de la ville de N'Djamena, au bord du fleuve Chari, qui a été cédé à l'église catholique du Tchad par l'État tchadien. La première pierre pour la construction de la basilique pouvant accueillir un grand nombre de fidèles comme les premières églises chrétiennes a été même posée par le président de la République Idriss Déby Itno le 5 avril 2013. La construction de cette basilique serait faite sur le financement de l'État tchadien. Mais 4 ans après, les travaux n'ont toujours pas commencé à cause de la crise économique et financière que traverse le pays. Dès lors, le terrain est exploité à d'autres fins. Djitangar Gedbe Edmond, archevêque de N'Djamena, dénonce cette pratique.
Le terrain est aujourd'hui squatté par des marchands de sable, de gravier, des briques fabriquées en creusant le sol même du terrain et des vendeurs de voitures d'occasion. Nous y avons déjà célébré la bénédiction des rameaux le 9 avril 2017. Une croix a été ensuite plantée comme premier signe pour marquer le caractère sacré de ce lieu. Mais les marchands de sable n'en ont pas fait cas.
Pour beaucoup de fidèles catholiques, ces petits commerçants, vendeurs de produits de carrière et véhicules d'occasion exploitent ce site sacré avec la complicité des autorités de la commune du 7e arrondissement municipal de la ville. Le premier maire de la dite commune, Dr Alaïssam Siad Madi, donne les raisons qui ont amené son institution à exploiter cet espace.
Aussitôt après la pose de la première pierre, nous avons enregistré 7 cas d'assassinat dans cet espace. Mon titulaire de l'époque a mené une réflexion avec certains cadres. Il est question qu'on exploite provisoirement en attendant la décision de construction de la basilique pour éviter les défécations à l'air libre et les différents cas d'assassinat. Mais on s'est rendu compte que cette décision a profité l'installation de certains marchands en désordre.
Le maire de la commune du 7e arrondissement informe par ailleurs qu'avec l'interpellation de l'archevêque de N'Djamena, ils seront délogés de force. Car, précise-t-il, sur instruction du gouverneur de la région de N'Djamena, l'ordre a été donné 2 fois de suite à ses exploitants de quitter le lieu.
Malheureusement, ils sont têtus et ils sont restés jusqu'à là. Donc actuellement, ils se sont installés dans l'illégalité. Ce qui nous reste à faire, je crois que si nous trouvons un petit moyen pour louer une niveleuse, nous serons dans l'obligation d'aller utiliser les graviers hautes là pour niveler le terrain là, et les faire partir de force.
Et pourtant, ces exploitants payent des droits de place. Mais à qui profite cet argent? Personne ne répond. André Godmadingar N'Djamena, VO Afrique.
Votre rendez-vous quotidien 24h sur 24 sur VOA Afrique, N'Djamena au Tchad sur 93.1 FM.
2 700 000 euros, c'est le montant qu'Ahmad Al-Faki Al-Mahdi doit payer pour la réparation des victimes en réparation des souffrances causées par l'attaque des bâtiments historiques et religieux à Tombouctou. Notre correspondant Mamoudou Bokoum est à La Haye. Il décortique pour nous cette ordonnance.
Cette audience de réparation n'aura duré qu'une demi-heure. La chambre de la première instance de la Cour pénale internationale a rendu son ordonnance. Ordonnance selon laquelle Ahmed Al-Faki Al-Mahdi doit verser 2,7 millions d'euros, soit plus d'1,7 milliard de francs CFA aux victimes. Le juge Raoul Palanga est le président de la chambre.
Monsieur Al-Mahdi, après avoir additionné les responsabilités financières associées aux différents types de préjudices causés par votre crime, la Chambre fixe à 2,7 millions d'euros le total de votre responsabilité financière. Ahmed Al-Mahdi est responsable à hauteur de ce montant au titre des dépenses qui seront engagées pour les réparations individuelles et collectives.
Ces réparations concernent trois catégories de préjudice, l'endommagement des bâtiments historiques et religieux attaqués, les pertes économiques indirectes et le préjudice moral, d'où la satisfaction de l'avocat des victimes, Maître Mayombo Kasongo.
La réparation prononcée ce matin est à la hauteur du préjudice subi, 2,7 millions d'euros bien sûr, qui sont à la charge du coupable pour revenir à la réparation du crime grave qu'il avait commis. Nous avons l'État malien qui a reçu aussi réparation 1 euro symbolique. Nous avons aussi l'UNESCO qui a reçu réparation d'un euro symbolique. Et nous avons les 139 victimes en totalité qui vont recevoir les 2,7 millions d'euros. C'est une victoire des victimes de Tombouctou, des victimes du Mali, des victimes de la communauté internationale et des victimes dans leur ensemble tout entier.
Par contre, la défense n'a pas fait de commentaires sur l'ordonnance. La Chambre laisse au fond des ressources des victimes jusqu'au 16 février 2018 pour déposer son projet de plan de mise en œuvre. Un projet qui expose les objectifs, les résultats et les activités nécessaires. Mamoudou Boukoum à La Haye pour VOA Afrique.
Salut les amis, Roger Moutou ici sur VOA Afrique. Vous me suivez tous les soirs à 20h temps universel dans l'émission RM Show. Au menu, de la bonne musique, des interviews avec des personnalités et des artistes. RM Show donne aussi la parole aux auditeurs de la VOA Afrique. Suivez-nous en direct sur Facebook Live VOA Afrique. Participez en appelant au 001 202 205 26 33. C'est au 001 202 205 26 33. Nous sommes aussi sur Twitter, Instagram et Facebook. Tapez juste hashtag RM Show. Ne ratez pas votre émission interactive RM Show chaque soir à 20h temps universel sur VOA Afrique. Peace Africa.
De la musique et du rythme, la musique de Yemi Alade pour vous dire au revoir, vous souhaitez une bonne soirée, c'était Marry Me. C'est la fin de cette édition, merci pour votre attention. À la mise en onde, c'était Sim Slomami, à la console Tian Wang, présentation Anastasie Tudiech. Ainsi va le monde aujourd'hui. Restons en contact via Facebook et rendez-vous également sur notre site voafrique.com pour l'actualité 24 heures sur 24 à venir. Washington Forum, présenté par Jacques Aristide. Bonne soirée à l'écoute de VOA Afrique.